Et pour moi, la phrase de trop, c'est celle de Gérard Depardieu à la une du Figaro. Ce matin, moi, dit-il, je suis au-delà de la révolte. Tu l'as dit, Gérard, toi, créature milliardo-poujado-poutinienne, tu es au-delà de la révolte. Une phrase qui donne envie de crier le contraire de ce que clamait Sartre. On a vraiment raison de ne pas se révolter. Que Gérard Depardieu incarne la révolte contre le lien social, à la limite, je suis prêt à l'admettre, mais pour le reste, cette phrase montre à quel point la notion de révolte ne veut plus rien dire. La révolte est désormais partout, preuve qu'elle est nulle part. La révolte est même sur des cartes de crédit de la banque Virgin, qui a utilisé les Sex Pistols, Anarchy in the UK, l'anarchie en Angleterre, pour décorer ses moyens de paiement. Voilà très précisément où nous en sommes. Il y a 40 ans, les punks clamaient « pas de futur », « je ne sais pas ce que je veux, mais je sais comment l'obtenir », et aujourd'hui, leur face se retrouve pile sur une carte de crédit, probablement la première carte bleue révoltée de l'histoire de l'humanité. Grâce à cette carte de crédit, on sait maintenant que la révolte paye. Elle paye partout où l'on accepte la carte de crédit. Elle paye si l'on est prêt à tout récupérer pour faire marcher le business. Il faut donc l'admettre, la rébellion est devenue une technique marketing, une manière de se distinguer des autres produits plus calmes, plus sages et bien payés. Comme le disent désormais les professionnels anglais du marketing, Rebel sell, la rébellion vend. Alors, lorsqu'on voit Depardieu ou la banque Virgin se réclamer de la révolte, on n'a qu'une idée en tête, ne plus avoir ni Depardieu ni maître.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Et même lorsqu'on n'a plus de maître, il nous reste un corps qui a ses exigences, et on en parle ce matin en compagnie de Catherine Maillard. Bonjour. Catherine Maillard, vous êtes journaliste spécialiste des nouvelles thérapies et vous publiez « Je danse, donc j'existe ». Vous allez nous expliquer ce qu'est la danse-thérapie. À côté de vous se trouve Céline Rivière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et neuropsychologue et vous avez publié « La calinothérapie, une prescription pour le bonheur » aux éditions Michelon. Et vous nous expliquerez en quoi consiste la calinothérapie. Pierre Desessintes, bonjour. Vous êtes journaliste
bonjour.
Spécialisé dans les questions de sexualité et vous avez notamment publié « Oser le libérer ». Libertinage, vous me direz en quoi le libertinage peut apporter un mieux-être, peut permettre à certaines libidos débordantes de mieux se canaliser. Puis enfin, Frédéric Salmann, bonjour. Vous
bonjour.
Êtes cardiologue, nutritionniste, auteur d'un best-seller, Prenez votre santé en main, aux éditions Albin Michel. Un livre, je dois dire, que nous avons examiné avec soin à service public. Et vous savez que chaque auteur est résumé à quelques petites phrases. Marx et la lutte des classes. Vous c'est les chaussettes, docteur Salmann, puisque vous expliquez qu'il vaut mieux faire l'amour avec des chaussettes. Expliquez-nous pourquoi, parce que ça a suscité beaucoup d'interrogations dans le bureau.
Ah oui, quand j'ai découvert cette étude qui a été faite par une équipe de scientifiques, je suis resté perplexe. Plus d'orgasmes chez les femmes lorsqu'elles gardent leurs chaussettes. Je me suis gratté la tête, je n'ai pas pigé sur le cou. Alors, ce qu'avancent ces scientifiques, ils disent oui, ça donne une meilleure confiance en soi. Bon, ceci dit, ça disait ni la couleur des chaussettes, ni s'il y avait des trous dans les chaussettes. Donc, après tout, je me suis dit, quand on voit des études un peu de ce type très curieuses, à partir du moment où il n'y a aucun danger, le mieux c'est d'essayer. Donc, j'ai demandé à mon épouse de garder ses chaussettes. En pratique, le résultat était très sympathique et elle a passé un fou à ses copines. Globalement, je vais dire que c'est intéressant en ce sens que l'orgasme tient effectivement à toute une série de données psychologiques qui sont pas toujours faciles à mettre en évidence et que des scientifiques s'amusent un petit peu sur ce territoire très curieux qui est celui de l'orgasme féminin qui est dur à comprendre. Pourquoi une femme va avoir un orgasme avec un homme et pas un autre avec la même...
Je croyais que vous alliez dire avec des chaussettes. Dans 30% des cas hein, seulement. Donc c'est pas une méthode infaillible quand même, docteur.
Non, c'est pas infaillible, vous savez... pour essayer de piger un petit peu comment fonctionnent ces choses, vous savez, il existe bien une force du mental qui soigne. Très souvent, vous savez, si je vous donne un comprimé pour votre libido, en fait, ce comprimé va contenir du sucre. Et vous allez me dire, oh là là, j'ai passé une nuit d'enfer. Il se trouve que, on se disait, c'est dans la tête, c'est l'effet placebo, etc. Et on a découvert il n'y a pas très longtemps que les gens qui bénéficient de ces effets placebo, c'est 30% des gens, ils sécrètent des grosses quantités d'encéphaline, c'est comme de la morphine naturelle. Autrement dit, la force de la croyance, envoie un signal à l'organisme pour qu'il fabrique ses propres médicaments naturels. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a toujours un effet placebo. Et moi, j'aime bien cet effet parce que, si vous voulez, quand on peut se passer de médicaments, qui, eux, ont des grosses, grosses études sur des cohortes importantes, on se dit, ouais, c'est solide, c'est chimique, c'est industriel. Je vous donne un exemple précis. Il y a quelques années, je tombe sur une étude qui montrait que le jus de cerise faisait dormir. Je me suis dit, tiens, c'est sympathique, surtout en France, où on est les plus gros consommateurs mondiaux de somnifères. Il n'y a pas longtemps, on vient de mettre en évidence qu'il y a un lien entre somnifères et Alzheimer. Je veux dire, je ne suis pas très partant. Effectivement, quand vous prenez ce jus de cerise, il y a 30% des gens qui vont dormir comme un bébé avec effet placebo. Et puis, s'il y a un effet, peut-être 10-15%. Je l'ai proposé pour voir mes patients qui étaient sous somnifères et j'en ai eu à peu près 40% qui m'ont dit « Oh, c'est bien votre truc, je dors ». Là, je suis preneur. Parce que même si ça n'a pas été fait sur des études genre médicaments, ça veut dire que je peux me débarrasser de ces médicaments qui ne sont pas bons pour la santé et je veux dire sans aucun danger.
Autre méthode, autre médicament qui n'a pas d'effet secondaire reconnu, sauf qu'éventuellement on peut se fouler une cheville ou ce genre de choses, c'est la danse. La danse peut être une thérapie, Catherine Maillard. D'ailleurs, vous le dites, dans « Je danse, donc j'existe ». En quoi consiste la danse-thérapie ?
Alors la danse-thérapie, c'est avant tout c'est une danse qui n'est pas codée. C'est-à-dire que pour reparler avec le docteur des chaussettes...
Continuons sur les chaussettes.
Continuons sur les chaussettes. Alors par exemple, on a toutes les danses sont des danses de séduction. Donc ce sont des éléments fondateurs pour la libido. C'est comme ça qu'on rencontre, etc. Et donc nous, on connaît plutôt le tango, la salsa, des choses comme ça qui sont où on est en chaussures ou en chaussettes. Et la danse-thérapie, en fait, la première dimension différente, c'est qu'on est pieds nus. Voilà, donc on est déjà bien dans le sol et donc dans notre bassin. Par rapport à l'orgasme, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, il se passe quelque chose de très intéressant par rapport aux danses-thérapies. Elles ont cette particularité de venir libérer justement le bassin. C'est-à-dire que quand on, comme la salsa bien sûr, sauf que là on va venir trouver notre mouvement naturel. C'est-à-dire que la salsa, on est sur des choses très codées, avec des rythmes qui sont imposés quelque part. Alors que là on va justement complètement libérer son énergie. En fait,
libérer l'énergie. Un internaute demande sur Twitter où faut-il mettre les chaussettes. Est-ce qu'on lui dit ? On va réfléchir. Prince Breakfast Can Wait, un disque choisi par Stéphanie Texier et Thierry Dupin. Hey baby, where are you going? Please don't rush off so soon. Like this, what am I gonna do?
Finally, my eyes are open. Been dreaming about you all night long. The only thing that I've been hoping for is for you go to work, babe. We get it on. I ain't trying to make you blush, but I just wanted to tell you. I think you're great. I know you're late, but I need another taste. Breakfast can wait.
Grits and gravy,
grits and gravy,
cheese, eggs and jam. Can't nobody cook it like you, girl. No, ma'am. But this here early morning, need something else on my plate. I think I want another bite of you, babe.
Breakfast can wait.
Breakfast can wait. You really put it on me. You shut it down last night. I thought the police were gonna come.
Loud.
Yeah, quite. I ain't trying to make you blush. I just think you're great. There ain't no need to rush.
Breakfast can wait. Finally, my eyes are open. Dreaming about you all night long. The only thing that I've been hoping for is for you go to work, babe. We get it on. I ain't trying to make you blush, but I just wanted to tell you. I think you're great. I know you're late, but I need another taste. Breakfast can wait. Breakfast can wait.
Can't stop even if the police come.
Breakfast can wait.
I got a double time kick drum.
Breakfast, breakfast.
You can't leave a black man in this state.
Breakfast can wait.
Service public sur France Inter en prévision de l'été. On parle de la libido ce matin dans Service public avec vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000. Nous sommes en compagnie de Catherine Maillard qui publie Je danse donc j'existe, de Pierre Desessins, journaliste spécialisé dans les questions de sexualité et auteur de Oser le libertinage, Dr Salman qui publie Prenez votre santé en main, et Céline Rivière qui elle prône la calinothérapie. Vous en parlez dans un livre édité aux éditions Michelon. En quoi consiste la câlinothérapie, Céline Rivière?
Alors la câlinothérapie, c'est la thérapie par les câlins, c'est-à-dire prendre l'autre dans ses bras, et on doit être vraiment dans un échange. Ça se passe dans une atmosphère de bienveillance, de gratitude, et on est un tout petit peu, c'est un tout petit peu différent de la sexualité, puisque là, il n'y a pas de notion de performance. On doit être justement dans le bien-être et dans un échange total.
Mais Antoine Lee, qui est juste à côté de vous et qui s'interroge, aimerait savoir si la câlinothérapie, c'est un peu, vous voyez, un peu coquin, ou alors si on peut pratiquer ça entre collègues de bureau en tout bien, tout honneur. C'est la question qui se pose. Je connais
alors,
bien Antoine maintenant.
Bien sûr, on peut. Il faut demander l'autorisation. Hein. C'est comme dans n'importe quoi, il faut que tout le monde soit d'accord. Ouais. Donc si vous proposez un câlin et que la personne accepte, bien sûr, évidemment, puisque on s'est rendu compte que ça libérait de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, l'hormone du bonheur, du bien-être.
Donc c'est une manière de s'attacher à ses collègues.
Exactement, c'est ça. Et ça permet de baisser tout ce qui est hormone lié au stress. Et on sait à quel point on est tous stressés dans les vies qu'on mène. Et donc, il y a un certain nombre d'études qui ont été menées et qui montrent toutes la même chose, que ça a un effet énorme sur notre bien-être.
Antoine.
C'est très bien, mais si l'autre refuse l'invitation à faire un câlin, ça aggrave les relations, non?
Alors,
un risque.
Ça dépend comment vous le demandez.
Ça vous est déjà arrivé, Antoine?
Non, parce que tout le temps. C'est pour ça que je pose la question.
Mais il y a une indienne formidable qui s'appelle Amma,
absolument,
qui a serré plus de 30 millions de personnes dans ses bras.
Exactement.
Moi, j'y suis allée. C'est impressionnant.
Alors, c'est pas un câlin, c'est un darshan.
C'est un câlin aussi, c'est qu'elle vous prend dans
c'est
ses bras. Oui,
tout à fait.
Et je dois avouer que je suis arrivée un petit peu sceptique. Il se passe quelque chose.
Ça vous a guéri, docteur?
Oui.
On a un moment d'intemporalité, quelque chose se passe d'unique, il n'y a rien de sexuel là-dedans.
Tout à fait.
Simplement le fait, les gens ne se touchent plus aujourd'hui.
Exactement.
Et quelque part, les gens sont isolés, sont pas bien. Vous savez, quand la maladie arrive, moi je dirais que ça s'appelle mal à dire. Les gens n'arrivent plus à dire, ne se touchent plus, c'est bourré de tabous. Et ça génère des maladies.
Oui. Et Amma, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Ce qu'il y a, c'est que elle amène quelque chose de spirituel aussi. Donc, ce qu'on sent dans son étreinte, c'est aussi toute son énergie, tout son amour. Elle est vraiment dans une grande ouverture à l'autre. Et c'est ça qui se transmet aussi.
C'est magique, ces moments-là. Et reprendre, que les gens se touchent, reprennent des choses bienveillantes, ça fait un bien fou.
Pierre Desessins, vous, évidemment, vous êtes d'accord, les gens ne se caressent pas assez, mais vous êtes ce que l'on appelle un libertin. En tout cas, vous avez publié Oser le libertinage aux éditions de la Musardine.
Oui.
Expliquez-nous tout d'abord en quoi consiste le libertinage et en quoi il se distingue d'autres pratiques dans le domaine de la sensualité.
Le libertinage, c'est un jeu. C'est un jeu qui redistribue les clés de la sexualité, de la sensualité au sein du couple. Et c'est quelque chose qui se pratique généralement en couple. Voilà, il s'agit de mettre un peu de piment dans sa sexualité en faisant intervenir d'autres personnes. Alors ça peut être une, deux, trois, quatre personnes à l'infini, évidemment. On peut pratiquer le libertinage en couple sans se mélanger, sans s'échanger. Ça fait partie des nouvelles formes de libertinage, ce qu'on appelle le côte-à-côtisme. Ce qu'on appelle aussi le door open, enfin il y a des pratiques comme ça tout à fait alternatives. Le libertinage, il ne faut pas croire que ça se résume à l'échangisme. Le libertinage, c'est pas seulement l'échange de couple, c'est pas seulement j'échange ma femme contre la tienne, ça a été ça pendant très longtemps.
J'échange mon mari aussi.
Oui aussi, évidemment.
Ce sont des relations équilibrées.
Ça peut être aussi du voyeurisme, ça peut être aussi du candolisme. Il y a énormément de pratiques, c'est
du quoi
extrêmement varié, du candolisme.
Qu'est-ce que c'est?
Alors c'est une expression qui vient du roi Candole, qui était un roi de Lydie, un descendant d'Héraclès, qui aimait voir sa femme se faire prendre par un de ses officiers. Et ça a donné ce mot candolisme.
Donc des pratiques royales, mais on ne connaît pas très très bien ces rois. Mais ce que l'on connaît bien à Service Public, ce sont les tests. Et figurez-vous qu'on a décidé de faire tester le libertinage. On a décidé de le faire tester par un couple en formation, puisqu'en fait, ils n'étaient pas véritablement ensemble auparavant. Il s'agit donc de Lenora Krief et d'Antoine-Ly. Il faut vous dire aussi qu'il ne peut pas y avoir d'années dans Service Public sans qu'Antoine-Ly fasse un reportage dans des boîtes échangistes. Il voulait le faire y compris lorsqu'on testait les yaourts ou les fromages, enfin n'importe quoi, il proposait. Mais si Antoine, il faut le dire.
C'est vous qui m'avez obligé à les faire tous ces reportages.
Rien n'est,
disons la vérité.
Tout est proposé, rien n'est obligatoire.
Tout est imposé.
En tout cas, vous y êtes allé, Antoine, vous y êtes allé avec Lenora et vous allez nous expliquer comment s'est déroulé ce reportage en micro caché.
Ah, Lenora.
Antoine.
Quelle soirée mémorable.
Disons même une expérience atypique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors notre relation n'est même pas encore consommée que nous voulions déjà pimenter nos fantasmes. Et je dois l'avouer, tu étais si ravissante dans ta petite robe noire, sans parler de tes talons aiguilles.
Des talons aiguilles, mais non, des escarpins, Antoine. Et toi aussi, hein, tu étais très chic dans ton costume noir. Il faut dire que ces lieux ont une idée bien stéréotypée de l'élégance, surtout pour les femmes. Mesdames, oubliez les pantalons, seules celles qui portent une jupe ou des talons sont acceptées dans ces établissements.
Alors nous étions sur notre 31, main dans la main et avec une certaine appréhension, avons-le.
Surtout pour moi.
Nous arrivons devant l'entrée de ce club échangiste, alors tendez l'oreille car dans cet établissement, il y avait beaucoup de musique.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Ça va bien?
Très bien.
C'est la première fois que vous venez?
Bah oui.
Ah bah c'est bien ça.
Mais là c'est que couple ce soir?
C'est toujours que couple. On n'accepte pas de femmes ou d'hommes seuls.
Et des couples hétérosexuels ou
Que des couples hétéros. Après, chacun fait ce qu'il veut à l'intérieur. Hein.
Mais pour entrer, c'est des couples hétérosexuels.
Ouais. Homme-femme.
Oh. Et comment vous les sélectionnez? Par curiosité?
Ouais. Bah, avec le sourire sympathique. Voilà, c'est pas de critères de beauté, de richesse. On veut vraiment de la sympathie, des clients respectueux de notre job, des autres clients, et puis voilà.
Alors,
bonsoir.
Bien welcome, bonjour, bienvenue.
Merci.
C'est un endroit où vraiment, vous allez voir, c'est très cool, très classe. Respectueux, érotique, voire même plus. Je vais vous faire visiter.
D'accord.
Alors, vous avez donc le bar, piste de danse,
ouais.
Salon et chambre, c'est comme un appartement en fait.
Voilà. Il y a des règles particulières à respecter?
Respect d'autrui. Après, j'ai des couples qui viennent pour différentes raisons. J'en ai qui vont venir, qui vont jamais s'échanger parce que c'est pas leur truc. Eux qui vont venir plus pour s'exciter dans le cadre du couple,
ouais.
Devant les autres, en voyant les autres. Et après, j'ai des couples qui franchissent les paliers, j'ai des couples qui viennent vraiment que pour l'échangiste. Il y a de tout. Il n'y a pas de règles, en fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est le feeling, et puis il faut vraiment qu'elles se sentent aussi à l'aise dans l'établissement, qu'elles se rendent compte que c'est cool, quoi. Personne va... Voilà.
Vas-y, ma chérie.
Salle de bain. Ici, vous avez un petit endroit caché, je vous laisserai découvrir après.
Oh.
Bon, je referme. Hein.
Merci.
Ils sont bons. Hier soir, par exemple, on a fait que 48 couples. Et tout de suite, c'est parti en sucette. C'est-à-dire qu'il y a un premier couple qui a commencé à se caresser, qui faisait l'amour. Et puis tout le monde est parti en... Voilà, ils ont tous fait l'amour les uns à côté des autres, ensemble. Non, pas forcément tous ensemble, mais les uns à côté des autres, maintenant, ça donne une impression un petit peu de... Eyes Wide Shut, je sais pas si vous avez vu.
Oui,
voilà,
bien sûr,
c'est assez impressionnant. Surtout là, c'est assez impressionnant de voir tous les couples. Mais vous voyez, voilà, c'est...
petit à petit, ouais, voilà.
Et vous voyez, ça ne dérange personne. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'en partant, vous ayez le sourire, voilà.
Juste en face de nous, ils sont... On va dire qu'ils ont un rapport à 5.
Ils sont 5, ils ne sont pas 4.
Après vérification, tu avais mal vu les normes. Ils sont 4, non pas 5.
J'avais vu une personne en plus. Voilà.
Alors, Lenora, tu avais toutes les raisons de te tromper puisque les partenaires ne cessaient de s'échanger, les corps de s'entremêler. Et une des choses qui nous a le plus frappé dans ce club, c'est la moyenne d'âge des participants. La plupart avaient entre 30 et 40 ans.
Et oui, et une coupe de champagne à la main, on a continué notre exploration, Antoine, dans un des salons à la lumière feutrée et tamisée. On a repéré un jeune couple qui, comme nous, semblait un peu intimidé et pour cause.
On rappelle que c'est en micro caché.
Bonsoir. Ah, c'était hier votre première ?
D'accord, et visiblement ça vous a plu, puisque vous êtes là de nouveau ce soir.
On a eu beaucoup de chance, ouais. Voilà. On est tombé sur des gens comme nous, en fait.
Ouais, ça s'explique pas.
Ça s'explique pas, en fait. C'est,
Mais on se dit que la vie est trop courte pour boire du mauvais vin, voilà, tout simplement.
Mais c'est vous qui l'avez proposé à votre femme ?
C'est elle qui a trouvé.
Vous, ça vous rend pas jaloux de voir votre femme
J'aurais pas su y répondre à cette question jusqu'à hier soir. Et puis en fait, on voit la jalousie, c'est un sentiment totalement étranger.
Et vous en avez discuté aujourd'hui dans la journée ?
Oui, ah bah ouais.
Ah oui, il y a pas de regret, parce que ça c'est un peu notre crainte, on a peur justement que ça, qu'après ça casse quelque chose entre nous.
Trouvez entre vous, si vous êtes fait l'un pour l'autre, je dirais peut-être plus que l'inverse.
Concrètement, vous hier, vous avez eu des rapports avec différentes femmes ?
Avec une autre fille, oui.
C'est important de faire ça ensemble ?
Je pense aujourd'hui, oui.
Et vous pensez que vous en parlerez à vos proches ? Ou pas ? C'est quelque chose qui restera entre vous ?
Tant que sur nos enfants ça ne rejaillit pas.
Question pratique, comment on sait qu'on peut passer à l'acte avec un autre couple ?
Là, c'est simplement ben, mon épouse et puis la fille en question se sont tout de suite accrochés. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
Ah, c'était entre femmes ?
Moi-même, j'ai pas osé les rejoindre de peur de faire fuir ou de priver. Mon épouse de ce plaisir là.
Bah, merci pour vos conseils.
Hein. Non, j'espère que vous allez vous amuser, puis peut-être à plus tard. Mais profitez, voilà, n'ayez pas de ni remords ni regrets.
D'accord.
Bonne soirée.
Merci.
Le prix de cette soirée libertine, c'était 75 euros.
Mais pour deux,
c'est pour deux,
dans
pour
le
deux.
Couple.
Mais en tout cas, Guillaume, on tenait à vous remercier pour ce reportage en immersion.
Parce qu'il faut bien le dire, c'est vous, Guillaume, qui avez eu cette idée de nous envoyer dans ce club libertin.
Et c'est qu'il faut une excellente vraiment. Alors, vous en aviez envie, vous avez cherché par tous les moyens à faire ce reportage, en plus tous les deux, et on me dit que vous avez pris une carte de fidélité.
Exactement, mais pour tout le bureau, parce que justement, c'était une excellente idée pour la cohésion dans le bureau, parce que depuis cette soirée, l'ambiance entre les reporters n'est plus la même.
Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Desessintes, vous qui avez publié « Oser le libertinage »
Moi, je trouve que ce qui a été dit, c'est très intéressant, et puis c'est très représentatif de ce qui peut se passer dans un club libertin. On a l'ambiance, c'était au masque à Paris, donc on a l'ambiance un petit peu...
Pas au masque et la plume. Le masque et la plume, c'est à France Inter, c'est plus sérieux.
On a cette ambiance un petit peu discothèque et très feutrée des clubs parisiens. Si on va en province, si on va dans des grands complexes libertins provinciaux, on n'a pas du tout cette ambiance-là. On a une ambiance beaucoup plus rabelaisienne, on a une ambiance plus... peut-être plus, un peu plus décoincé, parce que les gens sont...
Vous trouvez que les Parisiens sont un peu guindés ?
Les Parisiens sont toujours un petit peu guindés. C'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu feutré, un peu intimiste, qui peut nous empêcher d'aller comme ça spontanément vers les autres. Les gens se regardent beaucoup, etc.
C'est vrai.
En province, on a des complexes libertins. Je pense à des complexes comme en Bretagne, par exemple, le bilitis en Bretagne, où là vraiment on a un côté très
breton,
très breton et en même temps très gaulois, très rabelaisien. Il y a ce côté très festif. On mange, on boit, on baise, etc. Enfin, voilà.
Docteur Saldman, je sens que cette description vous fait réagir.
Oui, réagir, je reste très calme, bien
évidemment. Absolument, mais néanmoins, vous avez une réaction tout en restant calme.
Je ne dis pas dans quel état est le studio en ce moment. Ce n'est pas filmé, j'espère.
Non, ça n'est absolument pas filmé, néanmoins...
Ça ressemble à des scénettes, maintenant.
Cette description qui a été faite d'une boîte libertine, est-ce qu'elle vous inspire, sachant que, toujours pour continuer dans votre méthode, dans celle que vous préconisez dans Prenez votre santé en main, eh bien vous considérez qu'il faudrait, pour être en bonne santé, que nous ayons tous 12 rapports par mois, ce qui, évidemment, est une méthode à la fois sans danger, mais malgré tout une méthode dont j'aimerais que vous nous expliquiez la logique.
Oui, la sexualité, ça fait partie de la bonne santé. On s'est aperçu que lorsqu'il y a 12 rapports sexuels par mois, ça diminue de moitié les risques cardiovasculaires et ça augmente de 8 ans l'espérance de vie. Alors, chez la femme, d'abord...
Comment vous vous êtes rendu compte de ça?
Alors, en fait, c'est parti sur des très grosses études qui ont eu lieu aux États-Unis où ils étaient plutôt partis sur l'hypothèse que c'était l'inverse, un peu puritain. Et sur des échantillons, la population très large. Et on a découvert que d'abord dans les couvents, il y avait plus de cancers du sein que dans le reste de la population. Explication, il n'y a pas de rapport sexuel. Or, dans les rapports...
C'est ce que vous pensez.
C'est ce que je suppose. Et lorsqu'il n'y a pas de rapport sexuel, chez la femme, les rapports sexuels provoquent une sécrétion d'ocytocine, c'est une hormone de l'attachement et du plaisir, qui a une action protectrice sur le cancer du sein. Chez l'homme, on a repéré que ça diminue de moitié les risques cardiovasculaires et également ça diminue un petit peu la fréquence des cancers de la prostate. Ce qui s'explique très bien parce que, par exemple, si vous voulez, quand vous avez un fumeur, les cancers d'avessie sont juste derrière les cancers du poumon parce que les produits cancérigènes s'éliminent par l'urine et le sperme concentre très fort les choses, et si vous vidangez régulièrement, ça baisse les choses.
Ça, c'est la dimension un peu poétique de la chose.
Alors, il y a une chose importante, c'est que on parle bien sûr d'un aspect quantitatif, puisque ça augmente de 8 ans l'espérance de vie. D'ailleurs, une autre étude a montré que quand on a 12 rapports sexuels par mois, on paraît 10 ans de moins. Et vous savez, quand on paraît 10 ans de moins, on vit 10 ans de plus, donc c'est tout bon. Mais il y a, au-delà de cet aspect quantitatif, j'ajouterai un aspect qualitatif. C'est pour ça que je propose, justement dans ce livre, de travailler son périnée. Qu'est-ce que c'est que le périnée? C'est un petit muscle qui se trouve entre l'anus et le vagin chez la femme, l'anus et les bourses chez l'homme. Et vous savez, on perd 1 à 2% de muscles par an. Donc ce petit muscle qui doit supporter les 30 kilos qui sont dans le tronc, au bout d'un certain temps, ben, il est un peu faiblard. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des petites fuites urinaires chez la femme comme chez l'homme, parfois des problèmes d'hémorroïdes, et surtout des érections instables et un manque d'orgasme. Avec juste 3 minutes d'exercice par jour, au bout de plusieurs mois, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque chez l'homme des érections fermes, stables, un bon angle d'érection, un parfait contrôle de l'éjaculation, et chez la femme, des orgasmes puissants. Le périnée, il n'y a pas de tabou, ça se travaille. Les femmes connaissent ça à un moment donné.
Il paraît même qu'un ancien président de la République a travaillé son périnée avec des bénéfices politiques faibles, mais peut-être des bénéfices dans son intimité importants.
À sa fonction, le périnée, c'est un petit muscle formidable. Et vous savez, moi je le dis, on a l'âge de son périnée en fait. Et c'est très important parce que ça donne une qualité de vie, une qualité des rapports sexuels qui change complètement.
Les femmes. Dites pas ça parce qu'en régie, ils calculent l'âge de leur périnée. En ce moment, ça donne lieu à des scènes redoutables. Est-ce que dans la danse-thérapie, il est question du périnée, Catherine Maillard?
Alors, dans la danse-thérapie, les questions du périnée, on n'est plus poétique, érotique, sensualiste. En fait, la danse est avant tout un projet de séduction, c'est-à-dire c'est avec la danse on va aller rencontrer l'autre. Pour rejoindre Céline, il y a un contact, une rencontre qui va se passer qui est, alors comme vous le disiez tout à l'heure, docteur, parce que vous nous parliez de l'odeur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus fauve, déjà de plus sauvage qui va se passer, tout simplement parce que le corps va complètement se libérer, alors pas tout de suite si c'est pas tout à fait naturel au démarrage, mais j'avais envie de réagir par rapport à ce que disait le docteur. Moi, ce qui m'intéresse dans la sexualité, c'est vraiment la notion de sensualité, c'est-à-dire que avant l'acte, le coït, etc., il y a un moment quand même qui est très très important, qu'on peut appeler préliminaire, mais qui est surtout un moment de sensualité, ce qui veut dire comment on convoque tous ses sens et comment, enfin, on est vivant, donc comment on devient vivant dans ce corps et qui va faire qu'on va rencontrer la personne et que l'amour ou la sexualité va se...
Docteur Salman.
C'est vrai que la danse, c'est formidable comme action, parce que oui, il y a des odeurs qui viennent. Je regrette que le slow est un petit peu disparu, parce que ça permet permettait des contacts proches de la calinothérapie. Et maintenant, le slow, on n'a plus du tout cette danse, et c'est une danse formidable.
Alors, je vais vous inviter, docteur, à aller pratiquer la danse des cinq rythmes, parce qu'on a un contact dans la danse des cinq rythmes qui est très différent du slow. Alors, la danse des cinq rythmes, c'est une pratique californienne qui a été créée par Gabriel Roth, qui, comme son nom l'indique, procède par cinq rythmes. C'est-à-dire qu'on a des mouvements justement naturels qui dans le corps. Et en parlant de sexualité, justement, ce qui est intéressant, c'est de changer de rythme. C'est ça qui fait la saveur de ce moment-là. Et pendant la danse des cinq rythmes, on va aller aborder justement les différents rythmes que nous avons dans le corps. Dont un qui est particulièrement important pour la sexualité, qui s'appelle le staccato, qui en fait on réveille le feu, qui est d'abord le feu du bassin. Enfin voilà, il y a toute cette danse qui va aussi permettre les contacts qui vont être beaucoup plus chauds.
Est-ce que ça peut se danser la danse des cinq rythmes sur Philippe Catherine, Sexy Cool par exemple?
La danse des cinq rythmes se danse sur tout.
On va y aller.
Allez-y.
Je suis triste quand t'es triste. Je suis stressé quand tu stresses. Je suis sexy quand t'es sexy. Sexy, sexy, sexy. Je me sens sexy, sexy. Quand t'es sexy, sexy. Je chante toujours les mêmes chansons. Je chante toujours cette chanson. Je suis cool. Je suis triste quand t'es triste. Je suis stressé quand tu stresses. Je suis sexy quand t'es sexy. Sexy, sexy, sexy. Je me sens sexy, sexy, mais cool. Quand t'es sexy, sexy, cool. Je me sens sexy,
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 sexy. Je me sens sexy. Sexy, comme Dean.
Service public sur France Inter, il est question de la libido. On parle de la libido en compagnie de Pierre Desessintes qui a publié « Oser le libertinage » de Catherine Maillard qui est journaliste spécialiste des nouvelles thérapies qui publie « Je danse, donc j'existe ». Frédéric Salman, cardiologue nutritionniste qui publie « Prenez votre santé en main ». Et enfin Céline Rivière qui elle publie « La calinothérapie ». Vous vouliez parler d'amour, Céline Rivière, ce qui est nouveau, rafraîchissant, et par conséquent, expliquez-nous.
Je disais finalement que parler de libido, bien sûr, c'est important, ça fait du bien à tout le monde, mais ce qui est à la base de la libido, c'est quand même l'amour, c'est quand même le rapprochement. Et donc je reviens un peu sur mon sujet, qui sont les câlins. Et je disais que le fait de se câliner, de se toucher, ça permettait au couple de durer, puisque quand on est dans le partage, quand on est en lien, eh bien, on ne partage pas seulement du toucher, on partage d'autres choses. On se parle plus, on échange plus, et ça permet donc d'être beaucoup plus calme, de ne pas se laisser aller à du stress, à des engueulades, et c'est vraiment important parce que ça s'entretient l'amour. Donc ça ne s'entretient pas que par la libido, ça s'entretient aussi en se touchant, en s'écoutant et en laissant une place à l'autre.
Docteur Salman, l'amour c'est un équilibre instable en fait.
Bien sûr.
C'est quelque part quand vous voulez absolument être heureux, on mettait ça sous cloche, et ben ça disparaît.
Oui.
Et c'est en fait de se mettre un petit peu en danger, en permanence, d'oser, d'exprimer qui va faire les choses. On veut absolument se dire, l'amour c'est un CDI à vie, c'est garanti, il y a des indemnités en cas de rupture, c'est complètement l'inverse, c'est quelque chose qu'il faut trouver dans l'équilibre le plus instable qui soit, d'essayer de trouver de nouveaux codes, de s'inventer en permanence. Mm-hmm. Et c'est ça qui va faire la richesse du système.
Bien
sinon,
sûr.
On est sur des trucs qui fonctionnent un peu comme des revues d'anciens combattants et ça disparaît. Et quelque part, c'est intéressant notamment sur l'évolution des odeurs. Dans les premières années, on adore les odeurs de l'autre. Mm-hmm. Au bout de 3 ans, on lui demande de mettre des déodorants. Donc c'est pour ça que notre évolution physiologique fait que composer un amour durable, c'est vraiment un tour de force, c'est de créativité et d'intelligence.
Oui. Marion est au standard, elle nous appelle de Bordeaux. Bonjour Marion.
Bonjour Guillaume, merci beaucoup. À chaque fois, j'écoute... votre émission et c'est génial.
Merci.
Alors moi je voulais déjà préciser quand même que la pilule parfois diminue la libido et ça c'est un tabou. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi de divorces qui sont à cause de ça. Et voilà. Ah, je pense mais je veux dire il y a pas toutes les femmes qui prennent la pilule qui a leur libido baissé, mais je pense que quand même, statistiquement, c'est ça quand même. Et le truc, c'est que c'est un tabou. Donc voilà, c'est juste pour ça que je vous appelais.
Eh ben merci beaucoup Marion. On pose la question immédiatement au docteur Salman.
Marion, vous avez vraiment raison de poser cette question parce que justement, il faut faire sauter les tabous. Quand une femme a peu d'orgasme, son couple est en danger et je veux dire qu'elle va pas aller bien du tout. Alors la pilule, c'est vrai, il y a un certain nombre de femmes qui constatent que leur libido diminue avec. Il faut absolument en parler avec votre médecin traitant, d'une part parce qu'il existe des pilules de moins en moins dosées, donc faut essayer d'en rechercher une qui a moins cet effet, et si vraiment ça persiste, faites le test pendant un temps en utilisant un autre mode de contraception, de regarder si votre libido au bout de 3 mois est différente sans pilule. On appelle ça un wash-out, c'est de tester l'absence de pilule pendant quelques mois. Alors, il y a des femmes qui disent, ça revient. Dans ce cas-là, il y a bien d'autres modes de contraception comme le stérilet. Il faut prendre cela au sérieux. La libido fait partie de la bonne santé. Une femme qui a une mauvaise libido aura des syndromes anxieux, dépressifs, le couple qui ne va pas bien. Donc, c'est pour ça que j'insiste par tous les petits moyens possibles pour traiter la libido féminine avec sérieux, pour essayer vraiment de la considérer.
Mais
Est-il à ce point obligatoire d'avoir une libido, d'avoir une sexualité plaisante? C'est la question que nous pose Romain, puisqu'il nous dit que finalement on est passé d'une époque qui réprimait la sexualité à une époque où c'est l'injonction à faire l'amour. Docteur Salman, est-ce que finalement il ne faudrait pas laisser à chacun le choix? C'est évidemment ce que vous faites, vous n'obligez pas les individus à faire l'amour, mais est-ce qu'on n'en fait pas trop, nous demande Romain, autour de la sexualité?
On vit une époque absolument formidable, extraordinaire, où enfin on ose dire, on ose s'exprimer. Je veux dire, c'est une des clés exceptionnelles de la bonne santé. Il n'y a pas à dire il faut absolument faire 12 rapports ou 21 rapports sexuels par mois. On explique simplement, parce qu'il y a des gens qui pensaient l'inverse, c'est que ça s'use à force d'en faire trop. En fait, c'est exactement l'inverse, c'est qu'en fait, ça s'use, et on le sait très bien au niveau de la sexualité, si vous avez peu de rapports et de moins en moins en moins, mais en fait, ça suce si on s'en sert pas. Et quelque part, de montrer que d'avoir des rapports réguliers, ça fait partie de la bonne santé. Si vous avez cette possibilité, ben allez-y, ça vous ferait beaucoup de bien.
C'est aussi le sens
Pierre des Esseintes.
C'est aussi le sens du libertinage, c'est remettre un peu son couple en danger et redécouvrir le corps de l'autre, redécouvrir les possibilités de son propre corps après des années de vie commune. Donc il y a cette mise en danger, il y a cette notion de partage, et je pense à ce qui a été dit tout à l'heure dans le Club Libertin, quelqu'un dit c'est important de faire ça ensemble. Et ça, c'est vraiment fondamental dans le libertinage. C'est important que ce soit un partage, et c'est important de se laisser aller, tout simplement, et de faire confiance à l'autre. Personne n'appartient à personne, le désir de l'autre ne nous appartient pas, et ça, c'est quelque chose qui est important à intégrer. Voilà, et il faut s'aventurer, il faut risquer son couple pour mieux le consolider.
Catherine Maillard, votre réaction?
Alors j'avais envie de rebondir avec le docteur, c'est-à-dire que...
Rebondir avec le docteur?
Oui, bien sûr, qui parle beaucoup d'odeur. Dans la sexualité, il y a quelque chose qu'on oublie un peu, on la remet pas vraiment complètement à sa place. C'est-à-dire qu'avant tout, c'est notre énergie de vie. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des rapports sexuels, pourquoi la sexualité est importante? C'est parce que tout simplement, c'est de là d'où on vient, dont on vient, puisque on est né de la sexualité de nos parents. Et il y a une danse qui d'ailleurs connaît un engouement énorme, qui s'appelle la biodanza de Rolando Toro. Qui travaille sur ce qu'il appelle
alors
les
vivantia. L'engouement n'est pas encore arrivé jusqu'à moi, mais ça ne saurait tarder.
Je vous inviterai avec grand plaisir, Guillaume.
El Toro
de Rolando. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ces vivantia, il y a vraiment une remise en circulation de la libido qui, avant de s'exprimer dans une sexualité à deux ou à trois ou à quatre, comme le dit Pierre, elle est, dans un premier temps, l'idée c'est de rétablir notre corps de jouissance. C'est-à-dire que la jouissance, on est né pour du plaisir.
Docteur Salman, il y a beaucoup d'auditeurs, notamment sur Internet, qui nous disent « c'est bien gentil de nous dire qu'il faut faire l'amour 12 fois par mois, mais c'est quelque chose de très démoralisant aussi pour tous ceux qui sont seuls, pour ceux qui sont âgés ou qui sont considérés comme âgés. » Et donc, il y a du coup un message un peu désespérant pour tous ceux qui sont célibataires. Que répondez-vous à ces auditeurs?
Oui, si vous voulez, globalement, la sexualité fait partie de l'équilibre. Quand on a la chance d'avoir la possibilité d'avoir des rapports sexuels réguliers, c'est une très bonne chose. Maintenant, il y a les gens qui sont seuls, qui sont isolés et qui n'ont pas cette possibilité d'aller vers les autres aussi est une chose possible. Parfois, il y a des cas où effectivement, où la sexualité s'est endormie. Je dirais pas qu'il faut avoir 12 rapports sexuels par mois. Je dis, si on a la possibilité de le savoir, c'est bien. Maintenant, il y a d'autres façons. Parce que dans les rapports sexuels, on fabrique des endorphines, c'est des hormones du bien-être. Mais il y a d'autres façons de les fabriquer. Si vous faites 30 minutes d'exercice physique par jour, d'abord, vous allez diminuer de 40% vos risques de cancer, Alzheimer et maladies cardiovasculaires. Donc, vous augmentez votre longévité. C'est une autre façon. Mais vous allez produire des quantités d'endorphines formidable. Et ces quantités d'endorphines, on les produit aussi dans les rapports sexuels. C'est comme de la morphine, c'est du bien-être directement. Et ça me plaît beaucoup. Et vous savez, dans la danse, si vous dansez pendant 30 minutes sans s'arrêter, c'est comme faire 30 minutes de vélo, 30 minutes de marche rapide. C'est une façon ludique et formidable de se faire du bien.
Pierre des Essaintes, on parle de libertinage, mais finalement, le libertinage, n'est-ce pas là aussi quelque chose qui est réservé aux personnes jeunes, en bonne santé?
Alors, non, pas du tout. Et ce qu'on remarque, ça c'est un phénomène qui date déjà de plusieurs années, on remarque que beaucoup de gens autour de 40-50 ans se mettent au libertinage parce que ils arrivent à un âge où les enfants ont quitté la maison, ils ont une nouvelle compagne, un nouveau compagnon, et ils ont envie d'essayer autre chose. Ils ont plus de liberté, ils ont plus de temps libre, ils ont peut-être un petit peu plus de budget aussi, et ils ont envie de tester certaines choses pour relancer un peu leur couple. Et c'est le moment ou jamais. D'ailleurs, les seniors, on sait qu'ils sont de plus en plus actifs sexuellement. Voilà, donc c'est...
Antoine n'y veut réagir.
Non, mais je voulais comprendre, parce que lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que c'est simple. Lorsque les rapports sexuels se sont espacés, il suffit d'aller dans un club libertin pour faire repartir les relations sexuelles. Mais en même temps, il y a encore le poids de l'héritage judéo-chrétien. Il y a aussi, lorsque vous mariez, vous passez un contrat ou vous signez que vous allez rester fidèle. Donc c'est peut-être pas aussi simple que vous le dites, non ?
Les libertins sont des gens très fidèles. D'ailleurs, j'ai écrit mon dernier livre, s'appelle « Oser l'infidélité ». C'est un bouquin qui a vraiment énormément choqué par rapport à mon passé de journaliste dans le milieu libertin, etc. C'est quand même le tabou absolu, l'infidélité pour les libertins. Tout doit se partager.
Il y a un apéritif qu'on peut utiliser aussi, c'est les massages. Le fait de se faire masser fait un bien fou, et je veux dire sans passer forcément par la sexualité.
Chantal est au standard. Bonjour Chantal.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Cagnes-sur-Mer et nous vous écoutons, Chantal.
Alors écoutez, oui, je vous appelle de Cagnes-sur-Mer parce que là, on parle beaucoup de la libido féminine, mais on parle pas beaucoup de libido masculine.
Mais je suis d'accord avec vous, Chantal.
Voilà. Et par exemple, quand vous avez un mari qui est très pris par le travail, si tout se passe bien au travail, alors ailleurs, tout se passe bien. Et puis par contre, dès qu'il y a le moindre problème au point de vue travail, alors là, il n'y a plus d'abonnés ou numéros que vous demandez.
Docteur Salman, merci Chantal pour cette question.
Chantal, c'est une très bonne question. Alors, au niveau masculin, les progrès médicaux font qu'aujourd'hui, ça se règle aussi de façon très technique. Parfois, des hommes ont des chutes de testostérone.
Technique.
Oui, technique, je m'explique. Par exemple, il y a des hommes, on va trouver une chute de testostérone par une prise de sang. On peut compenser cette perte à partir du moment où il n'y a pas de contre-indication. Il y a aussi tout un arsenal thérapeutique aujourd'hui qui existe pour relancer la machine. Vous savez, à une époque, il y avait ce qu'on appelait l'andropause. L'andropause se produisait à la cinquantaine, où les rapports sexuels s'espaçaient progressivement, il y avait une fonte musculaire, vous savez, une peau un petit peu fine, blanchâtre, des muscles qui fondent, et on n'avait pas grand-chose. Et dire c'est intéressant parce que les hommes osaient pas aller vers des femmes plus jeunes de peur de pas être à la hauteur. Faut le dire honnêtement, aujourd'hui, on a un tel arsenal thérapeutique qu'on peut effectivement faire qu'une sexualité soit performante à tous les âges.
La chimie, voilà la réponse qu'on nous donne. Nous avons, Nicole, une dernière question très rapidement au standard. Nicole, bonjour.
Bonjour, c'est Nicole. Oui, j'ai l'impression que vous avez frôlé la réponse à ma question, à savoir les gens seuls, les gens veufs, les gens qui ont le conjoint à l'hôpital ou en prison ou quelque chose, ont peut-être recours quelquefois à la masturbation. Est-ce que ça fait autant de bien physiquement? J'imagine que oui, si vous avez répondu en matière de plaisir. Mais j'aimerais bien avoir confirmation.
Merci Nicole pour votre question, docteur Salman.
Alors Nicole, puisque vous abordez ce sujet de la masturbation, je veux dire que s'il n'y a pas de partenaire, il n'y a aucun problème de la pratiquer, mais elle ne va pas donner les effets aussi puissants qu'un rapport sexuel, parce qu'il y a moins de libération d'hormones du plaisir.
Antoine Ni.
Juste rappeler que Woody Allen disait de la masturbation que c'était la certitude de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime.
Il était très narcissique, il s'aimait beaucoup. Il y a d'autres solutions. Catherine Maillard, un mot de conclusion pour ceux qui voudraient essayer la danse-thérapie.
Alors j'avais envie de prolonger la proposition du docteur sur la libido masculine. On parlait de la danse, de la danse du couple, quand Céline envisageait aussi comme ferment de la bonne santé, du bien-être, l'amour. Voilà, la danse du couple, c'est un moyen de renouer et surtout de dégager ses tensions quand Chantal parlait de son conjoint très stressé. Danser et faites l'amour.
Céline Rivière, la calinothérapie.
Oui, alors voilà, c'est le rapprochement, se toucher, ne pas avoir peur, aller au-delà de ses peurs. Et là, on se rencontre et on rencontre l'autre.
Et puis, enfin, Pierre Désessinte, des destinations de vacances dans le domaine du libertinage.
Alors, on a beaucoup parlé de Club Libertin. Évidemment, le libertinage ne se réduit pas au Club Libertin, c'est vraiment un tout petit aspect, je dirais, du libertinage. C'est à chacun d'inventer son libertinage. Et pourquoi pas en vacances, puisque les beaux jours arrivent. Il y a beaucoup de destinations libertines de vacances. Il y a des chambres d'hôtes en France qui sont vraiment qui favorisent les rencontres libertines. Il y a des hôtels libertins. À l'étranger, on peut penser à des complexes...
Le Carlton.
Par exemple, des complexes libertins, naturistes au Mexique, en Jamaïque, en République Dominicaine, etc. Ce sont des très bonnes destinations, aux États-Unis aussi.
La régie aimerait savoir où est le Bilitis, cette boîte échangiste en Bretagne, puisqu'apparemment il y a des Bretons en régie.
Alors le Bilitis, c'est dans les Côtes d'Armor, c'est à Plounérin, c'est entre Guingamp et Morlaix.
Voilà, et ben on a répondu à la question que se posait la régie. Et puis enfin, docteur Frédéric Salmane, un dernier conseil pour ceux qui voudraient prendre leur santé en main.
Oh, j'irai simplement avec 3 minutes d'exercice par jour pour votre périnée. Vous allez passer un merveilleux été avec une sexualité performante.
Voilà, mais il faut prendre 3 minutes avec son périnée. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Prenez votre santé en main, par Frédéric Salmane, Céline Rivière, la calinothérapie, Catherine Maillard, Je danse donc, j'existe, Pierre Désessinte, Osez le libertinage, une émission évidemment préparée par Chantal Le Montagnier et Elodie Piel, qui y ont mis beaucoup de cœur. Nagui, vous êtes là, vous avez entendu.
Tant qu'elles ont mis le cœur et pas le reste, ça va, c'est essentiel. Hein. Bon, le périnée, je le travaille régulièrement.
3 minutes par jour, Nagui.
Le périnée, ouais, ouais, c'est important.
Pendant le flash de Laetitia Gaillet,
les hommes ont également
travaillé votre périnée.
Il faut travailler de son périnée, c'est essentiel, notamment en éternuant. Nous avons Barbara Schulz qui viendra nous parler de la condition féminine. Donc voilà, l'enchaînement est tout trouvé après l'orgasme.
On continue dans le même registre, on vous écoute tout de suite après le flash.
Vous avez mis le doigt dessus, Guillaume.